Philosophie de la matière par le Père Marie-Dominique Philippe à Rimont, 27 octobre 1989, premier cours.
Je reprends. Pour entrer plus avant le point de vue de ce qu'Aristote nous dit sur le lieu. Pour lui, ça joue un rôle très très important. Alors c'est toute cette partie importante que nous avions déjà lue ensemble. Je relis pour ensuite voir comment Aristote fait l'application à notre univers et comment nous pouvons essayer de comprendre de façon plus pure ce qu'est le lieu pour nous. Il semble que ce soit une grande édification. J'ai dit à Dieu, hein, c'est simplement parce que ce texte est très important, je crois qu'il est bon de le lire. Que ce soit une grande et difficile question de comprendre le lieu, parce qu'il donne l'illusion d'être la matière et la forme, et parce que le déplacement du corps transporté se produit à l'intérieur d'une enveloppe qui reste en repos. Le lieu paraît en effet pouvoir être autre chose, intermédiaire, indépendante des grandeurs en mouvement. À cela contribue l'apparence que l'air est incorporel. Le lieu paraît être, en effet, non seulement les limites du vase, mais ce qui est entre ces limites, considéré comme vide. D'autre part, comme le vase est un lieu transportable, ainsi le lieu est un vase qu'on ne peut mouvoir. Ça, c'est toutes les approches, je dirais, très phénoménologiques. Vous voyez, ça qui est intéressant. Par suite, quand une chose intérieure à une autre qui est mue, et mue échange de place, comme un navire sur un fleuve, elle est par rapport à ce qui l'enveloppe, plutôt comme dans un vase que dans un lieu. Le lieu peut être immobile. Aussi est-ce plutôt le fleuve dans son entier qui est le lieu. Parce que dans son entier, il est immobile. Par suite, la limite immobile, immédiate de l'enveloppe, tel est le lieu. Oui, toujours cet aspect négatif, tout ce qui est proche de ce que nous imaginons être le lieu. Qu'est-ce que c'est que le lieu ? Être localisé, qu'est-ce que c'est ? Et l'image, évidemment, du vase est tout à fait ça. Les fleurs sont dans un vase, elles sont dans leur lieu. C'est tout à fait ça. Et plus les fleurs sont belles, plus le vase est grand, plus le lieu est imposé ou imposable. Par suite, la limite immobile, immédiate de l'enveloppe, tel est le lieu. C'est pas la perasse de la limite immédiate de l'enveloppant. C'est de l'enveloppant. Conséquence, le centre du ciel et l'extrémité, celle qui est de notre côté du transport circulaire, sont admis comme étant pour tout, au sens éminent, l'une le haut, l'autre le bas. Là, on passe au pose. Comment comprendre le lieu ? Alors, tout de suite, deux extrémités. Mais le lieu va toujours du côté de l'extrémité. C'est ça qui est important à saisir. C'est quand vous allez réfléchir après, quel est le lieu pour vous ? L'autre, le bas. En effet, L'une demeure éternellement, l'autre, l'extrémité de l'orbe, demeure en un sens, qu'elle se comporte de la même manière, par suite. Puisque le léger, c'est ce qui est transporté naturellement vers le haut, le lourd vers le bas c'est la limite enveloppante, qui est du côté du centre. C'est aussi le corps central lui-même. Le haut, celle qui est du côté de l'extrémité, est aussi le corps extrême. Oui, comme c'est difficile, hein. Le lieu a l'air d'être un corps, et le lieu est en même temps une limite. Autre conséquence, le lieu paraît être une surface comme un vase, une enveloppe. En outre, le lieu est avec la chose, car avec la limite, avec le limité, la limite. C'est évident, quand on regarde le point de vue, l'état perata, les limités, la limite, ça se touche, c'est en contact. Si un corps a hors de lui un corps qui l'enveloppe, il est dans un lieu. Sinon, non. C'est pourquoi, même si une telle chose, une chose qui n'est rien hors d'elle, devenait fluide, on pourrait la dire telle, c'est-à-dire sans lieu. À la vérité, les parties d'un tout se mouvront. Elles s'enveloppent mutuellement, mais le tout, s'il se meut en un sens ou en un autre, non. En tant que tout, en effet, il ne change pas de lieu. Bon, c'est toujours à l'univers qui est un tout. C'est ça qu'il faut bien comprendre. En tant que tout, en effet, il ne change pas de lieu. Mais il se mouvra en cercle. Car tel est le lieu qu'il faut attribuer aux parties. Certaines d'entre elles ne se mouvant ni vers le haut, ni vers le bas, mais en cercle. D'autres se mouvant vers le haut et vers le bas. Alors vous voyez, tout de suite, l'image de la quintessence, dont le mouvement est le cercle, qui est au sommet de tout. Comme on l'a dit, les choses sont dans un lieu, les unes en puissance, les autres en acte. Par suite, quand un corps homogène est continu, les parties sont dans un lieu en puissance. Quand séparées, elles sont en contact et en temps, en acte. D'autre part, les choses sont dans un lieu par soi. Par exemple, tout corps mobile par transport ou augmentation est par soi quelque part. Mais le ciel, on l'a dit, dans son ensemble, n'est pas quelque part, ni dans un certain lieu, si du moins aucun corps ne l'entoure. Condition sine qua non, pour qu'il y ait un lieu. Il y a un corps qui l'entoure. Hein. C'est ça que je vous lis ça. Là, on voit bien la condition sine qua non. Ce n'est pas le lieu, mais c'est la condition sine qua non pour qu'il y ait lieu. Mais en tant qu'il se meut, il y a un lieu pour les parties. Et en effet, une partie est contiguë à une autre. D'autres sont dans un lieu par accident, comme l'âme et le ciel. En effet, toutes les parties sont dans un lieu en un sens, car sur l'orbe, elles s'entourent mutuellement. C'est pourquoi la partie supérieure se meut circulairement et seulement ainsi. Mais le tout n'est pas quelque part. En effet, la chose qui est quelque part est d'abord par elle-même une chose. Ensuite, en suppose une autre à côté, en laquelle consiste l'enveloppe. Or, à côté du tout de l'univers, il n'y a rien en dehors du tout. Par suite, tout est dans le ciel. Et le ciel est le tout. C'est bien entendu. Or, le lieu, ce n'est pas le ciel. C'est l'extrémité du ciel qui est en contact avec le corps mobile, comme limite immobile. Et là, vous voyez bien l'application de ce qu'il entend par le lieu. Le lieu, ce n'est pas le ciel. c'est l'extrémité du ciel qui est en contact avec le corps mobile comme limite immobile. Par suite, la terre est dans l'eau. L'eau dans l'air. Celui-ci dans l'éther dans le ciel. Mais celui-ci n'est plus dans une autre chose. Je crois que nous avons suffisamment vu ce que c'était que le lieu. Après, il donne la solution des difficultés, c'est pas la peine. Je crois que c'est pas. Il parle ensuite du vide.
Oui. Vous aviez parlé la dernière fois des limites de l'univers.
Oui, c'est ce qu'on va revenir.
Quand le philosophe réfléchit sur cette question, quelles sont les limites de l'univers?
Oui.
Est-ce que le scientifique lui a une réponse à nous donner par rapport au philosophe aujourd'hui?
Pour le scientifique, c'est ce qui est observable. Tout ce qui n'est pas observable. L'univers est toujours plus étendu. Puisque vous découvrez toujours.
Peut-on parler de limite de l'univers, justement?
Ben oui, philosophiquement, il y en a nécessairement. Vous pouvez très bien ne pas la connaître et dire qu'elle existe. Puisque tout corps physique qui existe est limité. Tout corps créé est limité. On ne peut pas dire qu'il est infini. L'infini en acte est inconcevable. Plan philosophique. Oui. Là. On peut partir de là, mais avant, je vais faire une réflexion philosophique, parce que je crois que c'est ça qu'on doit partir en premier lieu. La question du lieu, pour Aristote, correspond à l'interrogation « Qu'est-ce qui finalise le corps physique ?» Se poser la question. Toute réalité existante implique une fin. En vue de quoi ça existe? Si elle n'est pas finalisée, si je ne sais pas ce que c'est que sa fin, je ne la connais pas vraiment. Quelle est la fin d'une réalité physique. Posez tout de suite la question par rapport au corps humain. Et vous comprenez que c'est important, puisque pratiquement, le corps humain est une réalité physique. Elle est biologique, formellement. Philosophie du corps, hein, philosophie du corps. Je transporte mon appareil. Philosophie du corps. Bon, il est lié au monde physique, matériellement. Il est un corps biologique, parce que vivant. Informe le corps. L'âme, principe d'être, pour le corps physique. Vous avez toujours ces deux dimensions qui sont, comprenons bien, ces deux dimensions que je distingue par l'analyse. Parce qu'en réalité, mon corps humain et mes deux corps biologiques, corps humain. Distinguer les trois dimensions. Je ne dis pas le corps de l'homme. Je dis le corps humain. Quand mon corps est-il humain? Quand mon corps est-il biologique? Quand mon corps est-il physique? Hein? Je peux distinguer les trois dimensions. Et par le point de vue humain, si je suis croyant, un jour, il ressuscitera. Je ne crois pas que le corps de la grenouille un jour ressuscitera. Il faut Constat est biologique. C'est en tant qu'humain qu'il ressuscite. C'est pas en tant que biologique. C'est pas en tant que physique. C'est en tant qu'humain. Le corps humain, c'est l'usage que j'en fais. Je me sers de mon corps. Ça, c'est sûr. Je me sers de mon corps puisque je vous vois. Et en vous voyant, je me sers de mon corps. En vous entendant, je me sers de mon corps. Je me sers de mon corps quand je vais manger. Je peux manger trop, je peux manger modérément, je peux manger vertueusement. Dimension humaine du corps. Et d'intégrer. Ce qui est très important, vous voyez, c'est ce qui a fait dire à certains qui ont étudié Aristote, quand Aristote parle du corps en éthique, il dit qu'on en use. Alors certains disent, voyez, Aristote a la position de Platon, puisque le corps, c'est l'organe extrinsèque. C'était tout simplement parce que Aristote est en éthique. En éthique, on dit qu'on se sert du corps comme d'un organe, d'un instrument. Et on est en éthique, c'est l'âme qui se sert du corps. La comparaison que fait toujours Aristote entre celui qui domine et celui qui est dominé. L'âme domine et le corps est dominé. Et dans la mesure où le corps est dominé et que je m'en sers, il est humain. On a un corps plus ou moins humanisé. Tu vois qu'on s'en est servi plus ou moins. Le corps d'un enfant est moins humain que le corps d'un vieillard, qui est très humanisé. Et plus humanisé que le corps du sportif. Ce sera très intéressant de voir ça. C'est toute une question de... Mais ce qui est important, c'est de souligner le langage d'Aristote dans l'éthique, où il dit qu'on se sert du corps comme d'un organe. Et alors voir tout de suite les philologues qui oublient qu'Aristote a un langage analogique, différent en éthique sur le corps, différent dans le péripsychès, différent dans les parties des animaux. Ça, ils ne comprennent pas ça. Au point de vue biologique, l'âme est forme du corps. Si elle est forme, si l'âme est forme du corps, si le corps est cause matérielle de l'âme, je ne dis pas que l'âme se sert du corps. Elle le respecte, elle l'informe, elle lui donne une physionomie. Sa physionomie. Et puis là, le corps est physique. Il y a des éléments physiques par où il est apparenté à notre univers. Par où on peut agir sur lui chimiquement. C'est évident. Je peux agir sur lui physiquement, vous voyez. Je peux agir humainement sur lui. Je peux agir biologiquement sur lui. Je peux agir physiquement sur lui. C'est évident que je peux désagréger certaines choses. Arriver à par certains produits, hein, assez facilement, au point de vue chimique, faire que le pauvre individu, il va se désagréger. Vous faites ça pour n'importe quel animal, et vous faites ça aussi pour le corps humain. Donc il y a toutes ces dimensions. Alors, parmi les corps physiques, le corps humain est le plus parfait. Parmi les réalités physiques, le physique dans le corps humain est le plus parfait. Donc, je peux tout de suite dire, ça, je peux le dire, que c'est le corps physiquement premier. C'est le plus mixte, la complexité. Ça, les savants le constatent. C'est le corps le plus complexe. Du point de vue physique, c'est ce qui est le plus complexe. Les autres sont simples relativement à ça. Donc, premier, dans l'ordre du pas, de l'ordre parfait. C'est important de noter ça. Ça, je peux le constater, je suis tout à fait dans la ligne réflexion que fait Aristote. Pour Aristote, c'est les sphères célestes. C'est la première sphère céleste qui est le corps le plus parfait. À cause de la quintessence. Bon, on l'a déjà vu. Nous pouvons continuer ce que nous avions prévu là-dessus. Je ne peux plus dire que la sphère céleste est ce qu'il y a de plus parfait parmi tous les corps. Même la lumière, qui pourtant serait au plan physique ce qui semblerait le plus parfait. La lumière et le feu, ou le feu et la lumière, qu'on avait vu, qui se tiennent, le feu et la lumière. Le corps humain est plus parfait que la lumière et le feu. Même comme corps, plus complexe, d'une complexité plus grande. Alors vous voyez cette chose curieuse, et je crois alors ça c'est très intéressant, ça montre que pour Aristote, grâce à la première sphère, l'univers était un cosmos. Il y avait un ordre parfait. Pour nous, pouvons-nous dire encore ça? Pour nous, l'univers physique est tout entier ordonné au vivant. Et le vivant est tout entier ordonné à l'homme. Alors, quand je me pose la question, quelle est la finalité du monde physique? Aristote dit le lieu. Et le lieu pour lui est dépendant de la première sphère. Et du centre de l'univers. Ça c'est sûr. Et ça donne au monde physique une certaine finalité. Et un certain ordre. Commandé par la première sphère. Si je ne peux plus dire ça, je ne peux plus le dire. Je dois donc dire que le corps le plus parfait, parce que la première sphère était habitée par une âme, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Le corps céleste était animé par une âme du monde. Même si on dit qu'Aristote, à la fin de sa vie, on ne sait pas du reste de la suite. Aristote l'affirme pas, c'est très difficile. Ce qui est sûr, c'était dans le climat religieux de l'époque. Pour nous, nous ne pensons plus du tout à l'âme du monde. Peut-être vous encore, mais moi pas. Il peut toujours y avoir des témoins d'un âge révolu, n'est-ce pas? Je crois que nous ne pouvons plus penser à une âme du monde. Et donc la première sphère, n'en pensons plus à la première sphère. Nous sommes, par rapport au monde physique, beaucoup plus ignorants qu'Aristote. Aristote considère que le monde physique a une perfection que nous ne pouvons plus affirmer. Relativité dans le monde physique beaucoup plus forte que celle que dit Aristote. À cause, justement, qu'il n'y a pas la quintessence. Même si on essaie de retrouver une sorte de quintessence par le point de vue du magnétisme, voir qu'il y a quand même quelque chose, ce quelque chose repose toujours sur un monde physique. Ce monde physique, pour nous, est ordonné au vivant. Alors vous voyez tout de suite, je crois que c'est par là que nous devons entrer dans ce problème du lieu. ça, premièrement en voyant, en secouant bien les meubles. Oui, la poussière. Et voir que pour nous, le corps et la finalité du monde physique, c'est le vivant. Ce qui redonne à notre petite terre une importance capitale. Contrairement à tout ce que Freud et les idéologies athées peuvent dire. Ça redonne parce qu'au fond, nous sommes sûrs qu'il y a des vivants sur la terre. En dehors de la terre, on n'en a pas encore découvert. Donc ce sont des hypothèses. Or, le philosophe part de la réalité. La réalité qu'il constate, qu'il sait. Du fait même qu'il y a des vivants sur la terre, le monde physique est ordonné aux vivants. Et non pas l'inverse. Le vivant n'est pas ordonné au monde physique. Et la complexité dans le monde physique est une perfection. Et le monde des vivants est ordonné à l'esprit, à l'âme spirituelle. Qu'est-ce qui actue le corps biologique ? L'âme. L'âme est donc le lieu du corps biologique. Corps biologique, qui est physique, devient ce qui finalise tout le monde physique. Je crois que ça, nous devons l'affirmer. C'est la première affirmation. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus ?
Que l'âme est le lieu du corps de l'homme.
Non, le lieu. Faisons attention. Nous y reviendrons là-dessus. En tant que je vous disais tout à l'heure que la question du lieu pour Aristote, c'est la question de la finalité. Vous voyez ? Alors, c'est pas le lieu. Je suis d'accord avec vous, c'est pas le lieu. Puisque nous passons là du monde physique à un monde qui n'est plus physique. Or, le lieu est dans le monde physique. Vous voyez ? Donc, je suis d'accord. Mais on peut dire quel est l'acte. Ça, oui. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus ? Parce que ça, c'est capital. Hein ? Ça me semble capital dans une lecture qu'on fait d'Aristote. Et de saint Thomas aussi. Et là, nous répondons, si vous voulez, à un tas d'objections de gens qui disent « Voyez, toute la physique d'Aristote est périmée, ce qui est faux. Elle demande d'être purifiée. Toute la physique d'Aristote est périmée, donc sa métaphysique est périmée, ce qui est tout à fait faux. La métaphysique ne repose pas sur la physique. La métaphysique a ses principes propres, qui sont des principes de l'être. » Et l'être n'est pas dépendant du devenir, mais c'est le devenir qui est dépendant de l'être. Ça, Aristote lui-même ne cesse de le dire. C'est pour ça que je peux faire la critique, vous voyez. Autrement, je ne pourrais pas. Je me détruirais moi-même. Je ne dis pas que toute la philosophie repose sur le mouvement, elle repose sur le jugement d'existence. Ceci est. Et non pas ceci est mu. Ceci est. Au-dessus. Ceci est, mais il est en mouvement. Il est mu. Alors je crois que la première affirmation, c'est celle-là. Il faut d'abord être bien au clair que la recherche du lieu, c'est la recherche. Qu'est-ce qui finalise le monde physique ? Il faut se poser la question. Et la question demeure. Qu'est-ce qui finalise le monde physique ? Et on doit s'imposer, puisque le philosophe doit se poser l'interrogation des quatre causes. Autrement, il n'est pas philosophe. Qu'est-ce qui finalise le monde physique? Le monde physique, pour Aristote, est finalisé par la première sphère. Ce qui fait que c'est un tout. Un tout ordonné, un cosmos. Puisque c'est ça, un cosmos. Hein. Un tout ordonné. Donc, le corps suprême, le plus parfait, est toujours en mouvement circulaire. Il contient tous les autres. Et donc, les localise. Dans la perspective d'Aristote, je suis localisé en fonction de la première sphère. Voyez, comme c'est délicat, je supprime la première sphère, puisque ça n'a de sens qu'avec la quintessence. Je dis non, je ne peux pas accepter ça. La science moderne me montre que c'est pas acceptable. La science moderne, là, elle m'aide à aller plus loin dans l'aspect négatif, à supprimer comme une sorte d'idéalisation du monde. Une certaine idéalisation du monde, que ça reste. Le rambo, le cosmos, c'est le mot le dit. C'est le rambo magnifique, étonnant. C'est ma demeure, donc elle est belle. C'est la demeure de tous les hommes, donc c'est magnifique. Vous voyez, on est beaucoup plus errant, hein, nous. On est beaucoup plus pèlerin. Et ça va très bien avec la spiritualité chrétienne. On ne fait pas de notre univers, ça de notre demeure, quoi. Peu importe, on habite une vieille chaumière, on habite un vieux bâtiment qui croule, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est tant que ça dure de notre vie, c'est ça qui est important. On aime sous la tête, sous la tente, et de cheminer sous la tente. On est pèlerin. Mais c'est très curieux, hein. C'est important ça. Parce que ça fait comprendre que y a quelque chose là, de grec, très vieux, qui est mis de voir que l'univers était quelque chose de beau. L'homme était roi, un très beau palais dont il devait respecter. Oui.
Ça veut dire que magnifier le monde physique,
est-ce qu'on pourrait pas idéaliser.
Dire... Idéaliser.
Oui.
Est-ce qu'on pourrait pas dire spiritualiser?
Qui? Nous?
Non, oui.
Aristote. Niveau... Aristote, nous.
Aristote.
Non, idéaliser, pas spiritualiser, parce que c'est pas juste. On spiritualise par le point de vue spirituel, qui est une réalité. Tandis qu'idéaliser, c'est projeter un idéal, qui est imaginatif. Oui.
L'âme du monde.
Mais l'âme du monde, c'est une idéalisation du monde. Oui. C'est pas une spiritualisation du monde, puisque ce n'est pas vrai.
C'est-à-dire que ça serait attribué au macrocosme ce qui existe dans le microcosme.
Exactement, exactement. Et vice-versa. Le flux, le reflux. Vous ne pouvez pas accepter l'âme du monde, une âme spirituelle. Vous voyez, ça a duré très très longtemps, ça. Et ça existe encore dans le fond de certaines religions. Dans l'Inde, il y a comme ça. Vous voyez, ça n'a pas allé jusque-là, certainement. Une espèce de vision panthéiste du monde qui fait que le monde est divin. Et donc spirituel. On adore le soleil. Vouloir vous lever en même temps que le soleil pour être contemporain des dieux, très bien. Mais bah, je crois qu'on doit aller jusque-là. Mais j'aime bien, parce qu'on a dit qu'on faisait ce cours ensemble, étant donné qu'on doit la cheminer vers quelque chose qu'on doit essayer. On doit pouvoir, aujourd'hui, établir une philosophie de la matière. Jusqu'où devons nous aller? Qu'est-ce que nous devons garder? Qu'est-ce que nous devons rejeter? Je crois que c'est la conséquence immédiate de ce que nous avions dit. Nous étions tous d'accord à propos de la quintessence. Notre monde n'est pas éternel. Pour Aristote, la quintessence est éternelle. Pour nous, nous reconnaissons tout ce que nous constatons dans notre monde physique est corruptible. Donc peut disparaître. C'est corruptible. Vous voyez, et en tant que chrétien, on est presque obligé de l'accepter. On ne peut pas accepter que le monde est éternel en tant que chrétien. Alors c'est intéressant de voir que le philosophe, c'est pas parce que je suis chrétien que je le dis, c'est en tant que plan philosophique. En tant que philosophe, je suis obligé de le dire. Donc, vous voyez, et la catastrophe devient par rapport au lieu. Pour l'instant, ça va. Je suis dans le monde sublunaire, ça. Mais alors, catastrophe, n'y a-t-il plus le lieu? Alors, est-ce que tout ce chapitre d'Aristote sur le lieu va dégringoler? C'est le vieux Capharnaüm, avec un ami, tous les vieux meubles, il va dégringoler. Et donc, quand Saint Thomas parle du lieu, voilà le gros problème. Je le pose avec netteté pour que vous y réfléchissiez, vous compreniez que là, il y a un os extrêmement grand. Je résume en deux mots pour que vous le voyez. La question du lieu chez Aristote dépend de la première sphère. Enveloppante, qui, puisque dans la définition du lieu, il y a le corps enveloppant, il ne faut pas l'oublier. Et le premier corps enveloppant, c'est la première sphère, qui pour lui est éternelle et parfaite. C'est pour ça qu'elle est mouvement circulaire. C'est parfait. Donc, ça peut jouer ce rôle de finaliser le monde physique. Seul ce qui est parfait peut finaliser. Et il localise même des corps vivants, et même le corps humain, puisque cette première sphère est vivante et est parfaite. Or, nous avons vu que la quintessence, cinquième élément, ne peut pas, n'existe pas, que tout l'univers physique est corruptible, périssable, qu'il est en mouvement, non seulement local, mais aussi altérable, qu'il y a une unité de la matière à travers tout le monde physique. Ça, c'est constatable. Et donc, je ne peux plus accepter ça. Alors, quelle est la finalité du corps physique? Je dois me poser le problème. Quelle est la fin du corps physique, du monde physique? Puisque le lieu finalise le corps physique. Il permet au corps physique d'atteindre sa perfection en étant immédiatement relié au corps supérieur. Une espèce de hiérarchie dans les corps. Pouvons-nous maintenir cette hiérarchie dans les corps? Et seconde question, je supprime la première sphère. Maintenant, je me pose la question, y a-t-il un ordre dans l'univers? Je dis oui, il y a un ordre dans l'univers que je peux constater. S'il n'y avait pas d'ordre dans l'univers, il n'y aurait pas de science au point de vue de l'astronomie. Il y a un ordre extraordinaire dans l'univers. Et plus on avance, plus on voit que cet ordre est étonnant. Oui.
J'ai du mal à voir comment le lieu finalise de croire physique. Sachant que est-ce que le lieu n'est pas lié au repos?
Mais le repos, il est lié à ça.
Oui, mais...
Y a-t-il un repos dans le monde physique?
Ouais, il n'y a pas dans le...
Alors, il y a une nature. C'est pour ça que je n'ai pas encore attaqué le lieu. Vous voyez, faisons attention. Allons progressivement, n'allez pas trop vite. Hein? J'ai essayé de comprendre cette très belle vision d'Aristote. Elle est belle. Je vois qu'en définitive, elle repose sur ce pos de la première sphère. Hein? Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Bon. D'autre part, je me pose la question. Y a-t-il une finalité dans le monde physique? Et quelle est cette finalité du monde physique? Puisque le monde physique existe, donc il doit avoir une finalité. Autrement, vous diriez qu'il y a un être qui n'a pas de finalité. Ça m'ennuierait beaucoup, moi. Dire qu'un être n'a pas de finalité, moi, ça me semble assez monstrueux. Oui. Même s'il est toujours en mouvement, ça n'a pas d'importance, hein. Il peut avoir une finalité immanente au monde physique. Le monde physique est bien un tout. Je maintiens que le monde physique est un tout. Et que le monde physique a sa figure. Et que le monde physique a ses limites. Que je peux très bien ne pas connaître. Parce que je ne connais pas la limite du monde physique. Pour connaître la limite du monde physique, il faudrait être en dehors du monde physique, et le regarder. Alors là, je verrai. Il a un nez, qu'il a des yeux, qu'il a une bouche. Le monde physique, c'est un géant, ou un éléphant. Ou un hippopotame. Il a les pieds dans l'eau. Il faudrait être en dehors du monde physique pour comprendre sa figure. Mais le monde physique a une figure. Il a une limite. Métaphysiquement, c'est impossible autrement. Je ne la connais pas. Alors je pars de cette idée-là. Il me semble que c'est la seule manière de pouvoir comprendre ce que nous pouvons retenir du lieu. Ça m'ennuierait beaucoup de ne rien retenir. Parce qu'au fond, vous voyez, c'est ça qui est très curieux. C'est qu'Aristote définit le lieu, il ne le définit pas par la sphère première. C'est quand il passe au pos. Si je crois la figure de l'univers qui lui a fait poser le lieu, mais quand il définit le lieu, il ne définit pas par ça. Ça, c'est très intéressant. Il définit le lieu par l'ordre. Il y a un ordre. S'il n'y avait pas d'ordre, il n'y aurait pas de lieu. Pouvons-nous sauvegarder l'idée d'ordre?